Alors aujourd'hui, c'est un sujet évidemment qui intéresse beaucoup de monde, un sujet qui éveille la curiosité, croyance et miracles, exorcisme et sacrement. Alors je vais commencer. Vous voyez le plan, croire ou ne pas croire, supranaturalisme ou rationalisme. Ensuite, quelques textes officiels de l'Église. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-uns. Et puis, je prendrai ce que j'ai pu tirer de deux livres intéressants sur le sujet, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres sur tous ces sujets. Et il y en a la plupart qui disent peut-être n'importe quoi. En tout cas, que moi, je n'ai pas trouvé très sérieux, sauf les deux... Enfin, pas sauf, mais en tout cas, ces deux-là que je vais vous présenter, je les trouve sérieux. Vous les avez en note, hein, à la note 2 et 3. Et puis, une conclusion. Alors, le surnaturel, donc ce qui est de l'ordre du miracle ou de l'ordre de l'attaque du démon, ça peut être positif, une apparition mariale, ou bien négatif, une attaque du diable, une possession, etc. Est-ce qu'il faut y croire ou ne pas y croire ? Alors en effet, c'est vraiment une question de croyance. D'ailleurs, Dominique va commencer par s'interroger sur ce que c'est une croyance au niveau psychologique. Mais pour ma part, je situe donc cela entre deux extrêmes. Il y a ceux qui croient un peu tout, si on veut, ceux qui croient rien du tout. Hein. Alors, il y a ceux qui sont pour le supranaturalisme, comme on dit, ce qui est supranaturel, ce qui est surnaturel. Oui, ça a vraiment une existence, ça a vraiment une présence dans notre monde... dans notre vie quotidienne, et d'autres qui sont beaucoup plus rationalistes et qui disent « Bon, si je ne les vois pas, si je n'ai pas des preuves, si ça ne se répète pas sous mon microscope, ça n'existe pas. » Dominique va aussi parler de ces deux extrêmes à un autre niveau. Mais voilà, supranaturalisme ou rationalisme, ce sont deux tendances épistémologiques, dirais-je, dans tous les domaines, mais notamment en théologie et dans la religion. Hein, ce sont deux tendances qui existent partout. Il y a ceux qui veulent des preuves, et il y a ceux qui croient facilement ce qui est perçu. Alors je crois que bien sûr, il faut essayer de trouver le juste milieu, ne tomber ni dans une extrême où on croit tout, ni dans l'autre extrême où on nie tout, parce que de toute façon, je crois que dans la plupart des cas, il n'y a pas moyen de se mettre d'accord. Il faut se situer personnellement avec sa liberté, son intelligence, bien sûr, son cœur, mais il faut trouver une position. On ne vous convaincra sans doute jamais, ni de l'un ni de l'autre, si vous ne voulez pas y croire. Je crois cependant que dans certaines périodes de l'histoire du salut, par exemple, Jésus a fait des miracles, oui, les Actes des Apôtres nous racontent aussi des miracles. Je crois que par exemple, il y a peut-être d'autres moments, mais il y a certaines époques, certaines périodes de l'histoire du salut où vraiment il y a quelque chose qui se manifeste pour marquer vraiment la nouveauté du message. Je crois que Jésus a fait des miracles, personnellement je le crois. Mais quand on lit les évangiles, eh bien c'est très curieux, on se rend compte qu'il les fait au début de l'évangile. Et plus on avance dans l'évangile, moins il y a de miracles. Et évidemment, la patience, c'est vraiment un anti-miracle. Hein. Pourquoi ne te sauves-tu pas toi-même, toi qui as fait tant de miracles? Eh bien, dans les Actes des Apôtres, c'est la même chose. Au début, il y a la Pentecôte, et puis alors les disciples font des miracles, et puis petit à petit, eh bien, ça s'estompe. À partir d'un certain chapitre, on n'en trouve plus, et on entre plutôt dans le quotidien. Mais ces miracles ont peut-être été là, du temps de Jésus, du temps des Actes des Apôtres, pour donner confiance à ceux qui possédaient cette bonne nouvelle, ce pouvoir spirituel, mais qui n'est pas un pouvoir supranaturel, pour leur donner confiance et leur dire « Vous pouvez vraiment croire que Dieu agit dans le monde. Il agit, de manière visible, pas toujours, mais il agit à travers vous. » Le pape François, dans son exhortation apostolique « Gaudete et exultate » de 2018, a un petit paragraphe sur ces questions. La vie chrétienne est un combat permanent, dit-il, au numéro 158. C'était la leçon 11, la leçon passée. Et il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'évangile. Mais cette lutte est très belle, car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. Voilà, ce combat, nous savons qu'il est remporté par le Christ autour de nous, dans l'histoire et en nous. Et je vous lis le paragraphe 161 qui est sur votre feuille de route. Ne pensons donc pas que c'est un mythe, une représentation, un symbole, une figure ou une idée. Et il fait référence à un discours célèbre de Paul VI en 1972. Cette erreur de croire que c'est un mythe, etc., nous conduit à baisser les bras, à relâcher l'attention, à être plus exposés. Le diable n'a pas besoin de nous posséder, il nous empoisonne. Je trouve que c'est une formule qui dit bien ce qu'elle veut dire. Hein. Il ne faut pas trop croire aux possessions, mais il est là et il nous empoisonne. C'est une formule qui à la fois affirme et relativise. Il n'a pas besoin de nous posséder, il nous empoisonne par la haine, la tristesse, l'envie, les vices. Et ainsi, alors que nous baissons la garde, il en profite pour détruire notre vie, nos familles, nos communautés. Car il rôde comme un lion, etc. Sachant donc, puisque le pape nous met devant cette réalité, sachant que bon, il faut être vigilant, mais sachant aussi que Dieu nous délivre, nous préserve, et sans doute même si nous méritions, et si par nos imprudences, d'être davantage encore tentés par le diable, eh bien c'est aussi en ça que consiste le salut, que à chaque moment, Dieu nous préserve du mal. Et c'est bien ce que nous demandons chaque jour aussi dans le Notre Père, cette sixième demande du Notre Père dont je vous ai parlé, fait que nous n'entrions pas en tentation, et on le demande avec fermeté qu'il fasse quelque chose, parce que nous ne voulons pas entrer dans la tentation. Pour ce qui est des miracles, des apparitions, nous avons vu le film L'Apparition, là, avec le groupe qui examine les films. On s'est posé beaucoup de questions autour de ce film, c'est un film qui nous interroge beaucoup. Bon, l'Église a reconnu un certain nombre d'apparitions mariales, par exemple. Pas un très grand nombre, je ne sais pas combien, ni combien de miracles sont reconnus à Lourdes, mais un petit nombre par rapport à ce qu'il y a, hein, qui pourrait être reconnu comme apparition, comme miracle. Là, l'Église, et c'est dit dans le film, et c'est tout à fait exact, hein, préfère écarter une vraie apparition que donner son aval à une supercherie. Hein. Et c'est pourquoi, je crois, l'enquête est souvent très très sérieuse et très pénible parfois pour les voyants, etc. Si bien que là où l'Église reconnaît quelque chose, je crois qu'on peut donner foi à quelque chose de surnaturel qui s'est passé là. Mais sachez que ce n'est jamais obligatoire. Pour être un bon catholique, vous n'êtes pas du tout obligé de croire aux apparitions de Lourdes. En fait, vous n'êtes même pas obligé de croire au miracle de Jésus. C'est saint Thomas d'Aquin lui-même qui le dit. Il n'y a qu'un miracle, entre guillemets, auquel il faut croire, c'est la résurrection du Christ. Si un chrétien ne croit pas à la résurrection du Christ, il n'est pas chrétien. Mais tous les autres miracles découlent de la résurrection du Christ. Mais, voyez, saint Thomas d'Aquin, qui est un grand rationaliste, mais qui est un grand saint aussi, et un mystique même, eh bien, il a cette sagesse de dire ce qui est vraiment, vraiment minimal et essentiel, c'est la résurrection du Christ, tout le reste en découle, mais il n'y a pas besoin d'obliger les gens à le croire ou à ne pas le croire. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des grâces surnaturelles, importantes, même sensibles, mais qui n'en font pas état. Et je crois que c'est très bien. Il y a sans doute beaucoup de grâces, hein, beaucoup plus qu'on croit, qui nous sont données à nous, à nos voisins, etc., et qui sont pour nous. Pour que nous en fassions état ailleurs, pas pour que nous les gonflions peut-être et que nous en tirions un certain profit ou vanité ou je ne sais pas quoi. Donc je crois qu'il y a beaucoup de grâce. Et quand on est prêtre en confession, bien en accompagnement spirituel, on se rend compte que Dieu agit. Quand on donne des retraites, on se rend compte que Dieu agit. C'est pas toujours spectaculaire, mais c'est très profond. Hein. Alors quel est le discours de l'Église ? Alors j'ai noté quelques petits points, on pourrait en noter beaucoup d'autres, mais il n'y en a quand même pas tellement. Sachez que, donc le discours officiel de l'Église, surtout sur la question de l'exorcisme et de l'attaque du diable. Hein, Sachez que, eh bien, l'exorciste, eh bien, c'est quelque chose qui existe depuis le tout début de l'Église. Depuis le tout début de l'Église, dans ce qu'on appelait le cursus honorum, ça veut dire les différentes étapes que devait passer quelqu'un qui serait ordonné sous-diacre ou diacre ou prêtre, etc. Eh bien, il y avait des ordinations, bénédictions, c'est toute une discussion, mais il y avait différents stades. Alors, symboliquement, on dit souvent qu'il y en a sept, les voici là. Eh bien, on était d'abord nommé portier. Portier de l'église, je ne sais pas, de la sacristie, exorciste. C'était le deuxième stade, donc tout en bas de l'échelle, si j'ose dire. Et puis lecteur, et puis acolyte. Donc lire hein, la lecture, ou chanter le psaume, ou être acolyte, servir la messe, c'est plus qu'être exorciste, dans le début de l'église. C'est donc exorciste, c'était sans doute pas grand-chose. Hein. Aujourd'hui, on a l'impression qu'être exorciste, c'est une tâche extraordinaire, qu'il n'y en a qu'un ou deux par diocèse et tout. Bon, ben, à ce moment-là, tout le monde l'était, quoi. Hein. Commencez par là. Quand on voulait devenir même lecteur, ben, on était d'abord exorciste. Ça voulait dire qu'on était sollicité pour dire des prières, pour apaiser les gens et pour calmer les esprits, etc. Et il ne s'agissait pas de grands exorcismes, hein, il s'agissait de prières sur les personnes qui en demandaient. Ensuite seulement, on était sous-diacre, puis diacre, puis prêtre. Donc ça, c'est le cursus honorum. Alors ça, c'est toute une histoire, hein, c'est très intéressant à étudier, ce cursus honorum. L'ordination, donc, passait par ces sept étapes. Alors parfois, il y en avait huit, parfois on inversait deux étapes, enfin, il y a toutes sortes de variantes possibles. Mais après le Concile Vatican II, cela a été supprimé, il n'y a plus que diacre, prêtre et évêque. Vous voyez qu'ici, évêque ne se trouve pas, hein, parce que ce n'était pas vraiment un degré, c'était un prêtre à qui on donnait une fonction spéciale. C'était plus juridique que sacramentelle. Donc il y a toute une conception du sacrement qui a changé là. Enfin, vous voyez que donc, dans l'Église primitive, au 2e, 6e, 8e siècle, etc., tout le monde qui faisait la carrière ecclésiastique était d'abord exorciste. Il y a un fameux discours de Paul VI, assez inquiétant, assez alarmiste, le 15 novembre 72. Vous avez là la note. Vous pouvez trouver ce discours sur Internet, hein, où il parle bien de l'action terrifiante du diable dans le monde. Vous avez, 3 ans plus tard, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, la CDF, qui a produit un document qui s'appelle « Foi chrétienne et démonologie ». Vous pouvez aller lire ce document. Hein. Le droit canon de 1917 consacrait 3 canons à la question de l'exorciste. En 83, il n'y avait plus qu'un canon. Donc, dans toutes ces grosses briques du droit canonique, hein, il y a un intitulé qui parle de l'exorciste. Que dit-il ? Eh bien, j'ai noté là les 2 paragraphes sur votre feuille. Personne ne peut légitimement prononcer des exorcismes sur les possédés, à moins d'avoir obtenu de l'ordinaire, ça veut dire de l'évêque, une permission particulière et expresse. Voilà, donc il faut être nommé exorciste dans son diocèse. Il peut y en avoir un ou plusieurs, mais en tout cas pas beaucoup. Hein. En principe, il devrait y en avoir un dans chaque diocèse, mais vous verrez que ce n'est pas le cas et on verra pourquoi. Cette permission ne sera accordée par l'ordinaire du lieu qu'à un prêtre pieux, éclairé, prudent et de vie intègre. Voilà, normalement tous les prêtres sont comme ça, espérons, hein. Mais dans le droit canon précédent, on ajoutait d'âge mûr. Alors là, tout le monde n'est pas d'âge mûr. Hein. Donc c'était une condition qui renforçait la prudence et la piété, sans doute, d'âge mûr. Voilà, c'est tout ce qu'on dit dans le droit canonique de 83 sur l'exorciste. Alors il y avait un ancien rituel de l'exorcisme, voilà, que j'ai ici en latin. Hein? Alors celui qui était attaqué, bon, est appelé obsessus. Obsessus, c'est celui qui est attaqué. Obsédé, c'est attaqué. Voilà, que faire avec ceux qui sont attaqués par le démon? Eh bien d'abord, il y avait 21 recommandations. Je vais vous en lire quelques-unes, telles que j'ai pu les lire en latin. Et puis, il y avait les prières de l'exorcisme. Ce rituel de l'exorcisme de 1614, vous vous rendez compte, hein, il y a bien longtemps donc, eh bien n'avait jamais été renouvelé, et il l'a été en 1998. Voilà, il y a un nouveau rituel de l'exorcisme en 1998. Alors, que nous dit ce rituel de 1614 ? Alors, je vous signale que certains exorcistes aujourd'hui disent que celui de 1998, il est beaucoup trop moderne, ça ne va pas, le diable ne croit pas à ça, hein. Il lui faut du bon latin de 1614, hein. C'est à celui-là qu'il comprend, c'est à celui-là qu'il réagit, hein. Donc, il y a certains exorcistes qui disent, oui, moi, hein, je suis exorciste, mais c'est l'ancien, hein, c'est l'ancien. Donc je n'ai pas examiné de près le nouveau, mais l'ancien, que dit-il? Eh bien, il y a 21 recommandations pour commencer, dont je vous dis certaines, voilà. Il faut que ce prêtre soit autorisé par l'évêque, connu pour sa piété, prudence, intégrité et âge mûr. La troisième recommandation dit déjà, il ne faut pas croire facilement que quelqu'un est attaqué par le démon. Il peut être simplement malade. Et les signes de la présence du démon sont les suivants: parler ou comprendre des langues inconnues, connaître à distance, déployer une force non proportionnée à son âge ou à sa condition. Alors aujourd'hui, parler ou comprendre des langues inconnues, c'est, dans certains groupes, on estime que c'est un charisme. Et non, à ce moment-là, c'était une preuve assez évidente que le démon était présent. Donc, vous voyez que ça évolue un petit peu, hein. Mais c'est vrai, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que ce serait plus le démon que le Saint-Esprit qui inspirerait des phénomènes aussi particuliers? En tout cas, voilà, en 1614, c'était un signe. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut essayer de savoir quelles sont les paroles qui déplaisent à ce diable-là, à ce démon-là, que vous êtes occupé à essayer d'exorciser hors de cette personne qui est devant vous. Et ces paroles qui lui déplaisent, il faut les répéter davantage. Que l'exorcisme se pratique dans une église ou dans un lieu convenable, dans un lieu religieux, où on emmène l'énergumène, énergumenus, hein, c'est comme ça qu'on appelle aussi l'obsessus, là, celui qui est attaqué. Et il est bon de ne pas être seul. Il est bon de ne pas être seul. On peut être entouré par des personnes en petit nombre, et surtout si elles sont discrètes. D'ailleurs, le point 19 dit quand on exorcise une femme, il faut absolument avoir avec soi des personnes honnêtes qui maintiennent la possédée. Donc voilà, on ne peut pas faire un exorcisme seul, surtout pour une femme. Pour un homme, je ne sais pas, hein. Peut-être qu'il en faut quand même parce qu'il déploie une grande force, hein. Mais il y a cette insistance, et je crois que c'est une prudence. Je crois que c'est une prudence que parfois on n'a pas toujours aujourd'hui. Voilà, je crois que les conseils les plus élémentaires sont parfois les meilleurs, hein. Il faut exhorter le possédé à prier, à jeûner, à se confesser, à communier. Alors bon, il est probable qu'il ne veuille pas le faire, mais je crois que c'est très intéressant de signaler que il faut l'exhorter à faire ça. À prier, à jeûner, à se confesser, à communier. D'ailleurs, vous voyez que dans mon tout dernier point de conclusion, je prône, si on veut, hein, l'usage plutôt des sacrements ou des sacramentaux plutôt que le recours à l'exorcisme. Je crois que c'est beaucoup mieux, eh bien, de se confesser ou de pratiquer, d'aller fréquemment à l'Eucharistie, etc., que de croire qu'on va régler ses problèmes en recourant à un exorciste. Une fois comme ça, en passant, hein. Alors, il ne faut pas, ça c'est un petit paragraphe intéressant aussi, il ne faut pas que l'exorciste parle trop, qu'il parle de lui-même. Il ne doit pas poser des questions de curiosité, il doit plutôt dire les paroles de l'Écriture que les paroles qui lui viennent à l'esprit à lui. Mais s'il ne doit pas poser des questions de curiosité, il doit poser les questions qui sont nécessaires. Alors, quelles sont les questions qui sont nécessaires? Eh bien, ça, c'est assez curieux, hein, en tout cas de mon point de vue. Il doit essayer de savoir quel est le nombre des esprits à l'intérieur du possédé, le nombre et leur nom, parce que chacun a un nom. Depuis de combien de temps y sont-ils entrés et comment? il peut y avoir des gens qui ont beaucoup de mauvais esprits en eux. Et donc, voilà, ce n'est pas une question de curiosité que d'essayer de savoir quel est le nom de tel ou tel esprit qui se trouve dans la personne. Je ferai un petit commentaire là-dessus un peu plus loin aussi. Alors, les paroles qui irritent le plus les démons, il faut les répéter souvent, et textuellement il est mis, même 2, 3, 4 heures durant, ou plus, jusqu'à obtenir la victoire. Alors, si vous avez vu le film L'Exorciste, vers la fin, vous voyez que l'exorcisme, c'est vraiment un jeu où chacun essaie de crier plus fort que l'autre. Et ça correspond vraiment à ceci. Alors, il y a encore un dernier point que je souligne. Il faut voir si le malade ne prend pas des médicaments, s'il n'y est pas habitué, addict. Et dans ce cas-là, il faut les abandonner. Alors là, je ne sais pas quelle était la médecine de l'époque, 1614, mais aujourd'hui, si évidemment quelqu'un suit un traitement du médecin, surtout un traitement avec des psychotropes, enfin prescrit par un psychiatre, si on dit « bon ben moi je vais plutôt chez l'exorciste et j'abandonne un médicament », vous devinez que ça peut être assez dangereux. Et c'est peut-être ce qui s'est passé à Klingenberg dont je vais vous parler. Voilà, alors que racontent les exorcistes ? Bon, il y a beaucoup de farfelus, comme je vous ai dit, mais ce Gabriele Amort, un Italien, me semble quelqu'un d'assez sérieux. Et pourquoi ? Eh bien d'abord parce qu'il n'aime pas les interventions one-shot. Quand on l'appelle quelque part, eh bien, il prend soin de connaître la personne, il passe du temps avec les personnes, il repasse, il téléphone, il suit la personne, il prend soin de la personne. Il ne vient pas comme un magicien, qui dit « attention, j'ai les pouvoirs, j'interviens, et quand je serai parti, le problème est réglé ». Non, pas du tout. Il a une intervention très humaine, semble-t-il, en prenant soin de la personne. Souvent, il dit qu'il fait des bénédictions plutôt que des exorcismes pour ne pas effrayer. Il demande souvent la discrétion, bien sûr, aux personnes qui l'entourent, parce qu'il va souvent avec des gens de groupes de prière, justement. Il désire toujours avoir un diagnostic psychiatrique avant de rencontrer une personne. Alors ça, le nouveau rituel l'impose. Apparemment, l'exorciste doit travailler en accord, je ne dis pas direct, mais enfin, il doit avoir un avis d'un psychiatre sur ce qui se passe. Eh bien, Amort le faisait toujours. Mais il ne commentait pas ce diagnostic. Il l'avait en tête, voilà, et je crois que c'est un progrès du rituel de 98 de dire qu'il faut absolument avoir un diagnostic. Alors, la pratique de l'exorcisme dans le monde aujourd'hui. Il n'y a pas d'exorciste, figurez-vous, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Espagne, au Portugal. Alors, pour l'Espagne et le Portugal, je ne sais pas pourquoi, mais en Allemagne, en Autriche, certainement, à cause d'événements qui se sont passés. Notamment, le cas de Anneliese Michel, que j'ai mis dans l'étude de Miskola, en 1976. Une pauvre jeune fille qui a passé pas mal de temps en maison psychiatrique, qui était diagnostiquée épileptique, psychotique, etc., a aussi été exorcisée des dizaines de fois par deux prêtres, à la demande des parents, etc. Alors ils abandonnaient le traitement médical, puis ils le reprenaient, puis ils l'abandonnaient, etc. Et cette jeune fille a fini par mourir à l'âge de 24 ans. Et il y avait eu beaucoup de tam-tam autour de cette histoire. Il y avait eu des émissions télévisées. Ils avaient 40 bandes d'enregistrement avec les cris et tout ça. Ça avait été beaucoup trop médiatisé. Et bien, figurez-vous que après sa mort, on a déposé plainte contre les prêtres et contre les parents. Et finalement, parents et les prêtres ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis par la justice civile pour manque de discernement et d'aide à personne en danger. Eh bien, c'est ça qui a fait que les évêques allemands ont dit maintenant c'est terminé. Pour ne plus avoir d'exorcisme, on n'a plus d'exorciste. Et ça s'arrête là. Benoît XVI a plusieurs fois dit qu'il le regrettait beaucoup. Jean-Paul II aussi a beaucoup parlé du diable et des exorcismes. Mais voilà, dans ces pays-là, eh bien, c'est terminé. En Belgique, non, il y a un exorciste au moins par diocèse et on peut recourir à ces services. Alors les victimes de ces possessions. Eh bien, selon Amort, il y en a un peu de deux sortes. Ou bien ce sont des gens qui sont plutôt dans les erreurs et dans les péchés, commis ou subis d'ailleurs, hein. Ou bien au contraire, ce sont des gens qui sont attaqués à cause de leur amour de Dieu. Ce sont des épreuves dans la vie religieuse ou dans une ascension spirituelle. Mais assez souvent, ce sont des personnes qui, voilà, mènent une vie vraiment bizarre, hein, parfois avec des cultes sataniques ou bien des viols collectifs, etc. Enfin, il paraît qu'en Belgique, là, on a dit ça récemment, que c'est encore assez fréquent. Et c'est évident que ce sont des traumatismes incroyables, hein, qui font que les personnes à ce moment-là ne savent plus se situer. Des personnes font des pactes avec le diable. Alors que ce soit vrai ou faux, si moi je crois que j'ai fait un pacte avec le diable, ben évidemment j'entre dans un trip un peu spécial. Hein. Et voilà, il y a des gens qui tout en faisant ça sont pleins de remords. Et c'est aussi une composante psychologique très présente, hein, le remords, la tristesse, la mélancolie. Je vous ai déjà dit rapidement, hein, le cas de Klingenberg, là, de cette Anneliese Michel. Voilà, on remarque assez souvent que les personnes qui sont victimes de cela sont aussi des personnes qui présentent ce qu'on appelle en psychiatrie, hein, des traits de mélancolie. Ça veut dire des personnes qui vivent profondément leur existence comme complètement inutile, pas valable, détestable, et qu'il n'y a rien de bon en elle. Et voilà, selon un peu les circonstances de la vie, ces mélancolies, eh bien, peuvent se surcharger de motifs religieux et de possessions du diable. Alors, Doris Fischer est aussi un cas très intéressant, assez ancien, mais qui a été étudié à fond en 1909 aux États-Unis. C'est une jeune fille qui aussi a une enfance désastreuse, hein. Donc il a perdu ses parents qui étaient enfin des parents très très le père alcoolique bien sûr, la mère très dérangée. Et alors voilà, elle est accueillie quelque part et puis ça va bien et puis de nouveau ça va moins bien. Et alors en fait on se rend compte après un certain temps qu'elle vit comme dans un état second, hein, une autre personnalité que sa personnalité habituelle. Et puis, il y a une troisième personnalité qui se rajoute aux deux autres, puis une quatrième, etc. Et étudiée à fond, de très près, par des gens qui s'y connaissaient, on se rend compte qu'au fond, elle revivait des périodes de sa vie, hein, mais complètement cloisonnée par rapport à ce qui avait précédé ou suivi. Elle vivait comme ça des périodes catastrophiques de sa vie, hein, comme si elle avait 2 ans, comme si elle avait 5 ans, à un moment où son père l'a battue, etc. Avec une amnésie qui fait la cloison entre ces différentes personnalités. Il y a souvent des phénomènes d'amnésie, hein, chez ces personnes. Et donc c'est une décomposition du jeu propre. Dans des personnalités faibles ou fortement traumatisées, le jeu se décompose. Et devient, eh bien, ces 2 ou 3 ou 4 démons, hein, que l'exorciste de 1614 devait nommer. Est-ce que dans ce type d'exorcisme, on demande, hein, combien il y a de personnes dans l'autre, est-ce que justement on ne favorise pas, on n'induit pas les figures diaboliques à l'intérieur même de la personne? On lui dit, ben, vous êtes vous, mais il y a quand même une autre personne en vous. Donc on l'aide à se dédoubler. Et si on lui dit, hein, plus, il y en a peut-être 4 ou 5 ou 6, ben on l'aide à se fragmenter encore plus. Voilà, tout ça pour dire donc que la conclusion, c'est qu'il faut vraiment, dans un premier temps, patiemment évidemment, avec beaucoup d'amour, réunifier la personne, essayer de trouver le sens de ce qu'elle vit. Même si c'est complètement chaotique, apparemment, essayer de trouver un sens, un fil rouge à tout cela, et de réunifier la personne, ça peut prendre des années, évidemment. Hein. Le cas de Doris Fischer, elle a fini par vivre une vie normale, mais ça a duré quelques années. Et comme je disais, plutôt que de courir aux exorcismes, surtout aux exorcismes sauvages, ça veut dire que tout à coup, un prêtre, un jeune prêtre, même éventuellement, hein, pas d'âge mûr, etc., se dit, mais tiens, cette personne, je vais l'exorciser parce qu'il y a un gros problème. Et puis, seul, comme ça, avec un rituel, on commence à dire des choses à des personnes qu'on ne connaît pas très bien ou dont on n'a pas fort approfondi le problème. Je crois que ça, c'est vraiment dangereux, mais ça existe, hein. Et il faut évidemment plutôt encourager, je crois, à recourir au sacrement de confession, au sacrement des malades. J'ai connu une personne qui avait eu quelques expériences de spiritisme, etc. Et baptisée, elle voulait renouer avec son baptême au-delà de ses expériences par le sacrement de la confirmation. Et elle s'était préparée à ce sacrement de la confirmation pour dire « Je rejette tout ce que j'ai fait de mal entre mon baptême et maintenant, et par la confirmation, je réadhère au bon chemin. » Eh bien, ça a été son salut. Voilà, je cède la parole à Dominique.
Merci. Alors, dans le mythe culturel occidental actuel, on peut repérer d'une part une fascination, un désir pour tous les phénomènes paranormaux, les pouvoirs magiques, et en même temps un rejet tout aussi absolu de l'inexplicable sur le plan scientifique. Alors, je vous rappelle, le mythe culturel est l'ensemble des croyances conscientes et inconscientes qui sont présentes dans la culture et qui influencent les familles, les individus et forgent leur identité. Donc le mythe culturel est l'ensemble aussi des valeurs, des représentations qu'on se fait du bien, du mal, du sens de la vie, etc. Et il constitue une véritable peau identitaire dans le groupe social. Cette peau identitaire dans laquelle nous sommes pris, une identité collective à notre insu. Alors ce paradoxe entre rejet, refus de l'inexplicable et en même temps attirance pour le surnaturel existe parfois chez les mêmes personnes, quel que soit leur niveau intellectuel, leur formation scientifique, leur religion, leur conviction philosophique. Ce paradoxe entre rejet et désir trouve sa source aussi dans une période de la vie que nous avons tous vécue. Avant 5 ans, il y a une confusion entre l'imaginaire et la réalité. C'est la limite entre l'imaginaire et la réalité chez l'enfant jusqu'à 5 ans n'est pas très claire. Et voilà, cette confusion peut encore nous habiter, surtout dans des moments particulièrement difficiles de notre vie. Elle peut aussi être utilisée comme une tentative désespérée de donner du sens à une réalité trop dure. Elle peut basculer jusque dans le délire chez certaines personnes qui sont fragiles. Elle peut aussi être une tentation de pouvoir à un moment où on se sent totalement dans l'impuissance. Alors, par exemple, David, 24 ans, est athée, juif, scientifique. Il souffre d'angoisse de mort, il a une bonne culture religieuse. Il pratique le spiritisme pour tenter de sortir de ses angoisses de mort. Il croit en une vie après la mort, mais il ne croit pas en Dieu. Il désire parler à son grand-père qui est décédé récemment, et c'est pour ça qu'il pratique le spiritisme, et pourtant il a peur des fantômes et des esprits malveillants. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il croit qu'à la mort de ses parents, il va mourir d'angoisse et de douleur. Il se sent complètement dépendant de ses parents, et donc il essaye dans cette pratique du spiritisme de résoudre ses angoisses. Sur le plan culturel collectif, au-delà des contradictions individuelles, le conflit entre croyants et incroyants se pose souvent comme un conflit entre croyances magiques et science. Comme si, grâce à la science, on pouvait échapper aux croyances et atteindre un savoir objectif sur la vie et sur le monde. Alors la difficulté que je rencontre dans la formation des psychothérapeutes athées est liée à leur croyance qu'ils n'ont pas de croyances. Les croyants savent qu'ils ont des croyances, et donc on peut en parler, hein, comme on a fait par rapport au film L'Apparition, etc. On peut voir si on croit tous la même chose, on peut voir ce que l'Église nous dit, etc., comme Bernard vient de le faire. Mais le problème, c'est que quand on croit qu'on n'a pas de croyances et qu'on est dans l'objectivité pure, c'est évidemment assez compliqué. Et voilà. Mais ma conviction est que croire en la science est une croyance. Alors, pourquoi ? On ne peut pas échapper aux croyances. parce que la croyance est une représentation que l'on se fait de la réalité. Et donc, en science aussi, il y a des croyances, des représentations de la réalité. On part de la réalité, on se la représente sous forme d'un modèle qui la rend compréhensible, et ce modèle de représentation va créer une nouvelle réalité dans l'action. On verra ça dans des représentations cliniques tout à l'heure. Le problème, c'est que parfois, cette représentation que nous nous faisons de la réalité prend pour nous une valeur de vérité, plus ou moins difficile à interroger. Surtout si elle est une solution, une réponse qui nous construit, si elle est liée à des angoisses ou à des désirs. David, dont je viens de parler, a besoin de croire à une vie après la mort. Il a besoin de communiquer avec les esprits pour supporter l'idée qu'un jour ses parents vont mourir. Le problème, c'est que certaines croyances peuvent aggraver les angoisses et mener à la folie, même si au départ elles sont une solution pour le psychisme. Alors, les croyances qui sont dangereuses pour le psychisme sont celles qui se construisent sur le plan individuel en miroir de nos angoisses et de nos désirs, sans référence à un système symbolique collectif qui fait tiers et qui vient interroger et décoller les interprétations individuelles. Alors, une représentation de la réalité n'est pas la réalité, mais elle vient pourtant d'une expérience réelle et elle va construire de la réalité. Je prends l'exemple d'un père de famille pendant la guerre 40-45. Le dernier jour de la guerre, son fils est tué, alors que la mère était en train de prier dans une église. Bon, le père réagit en disant « Puisque ça s'est passé, c'est la preuve que Dieu n'existe pas ». Il perd la foi, il va en parler à personne, il décide de ne plus croire, de ne plus pratiquer. Sa femme va continuer à croire. Mais la conséquence pour la génération suivante, aucun enfant ne va croire. Là, il y a une transmission qui est rompue. Voilà, donc cet homme a interprété la réalité qui était arrivée, ou plutôt le traumatisme qui lui est arrivé, a cassé la représentation qu'il avait de la réalité, et il a décidé que Dieu n'existait pas. Mais bon, sa croyance est une interprétation de la réalité qui donne du sens à cette réalité vécue et qui l'a peut-être aidé à vivre. Mais il n'a pas cherché de tiers pour essayer de voir s'il pouvait rester dans le même système référentiel symbolique, comment d'autres croyants vivaient ce traumatisme de la mort d'un enfant, etc. Il a décidé ça tout seul. Alors, pour qu'il y ait une cohérence, il faut pouvoir vivre ses croyances dans un lien social et historique. Pour qu'une croyance soit positive pour le psychisme, il faut qu'elle donne sens à notre vie, mais qu'elle nous relie aussi les uns aux autres en donnant sens à une histoire collective, en nous donnant confiance dans la vie. Alors, quand on parle d'un système symbolique de référence ou de croyance collective, on parle d'un système qui précède notre naissance. Une religion existe avant nous. On entre dans ce système symbolique qui nous précède, qui a toute une histoire et qui va continuer après nous. Donc, voilà, pour les chrétiens, c'est une histoire avec un Dieu trinitaire qui nous aime, c'est une histoire d'amour et de confiance qui a commencé avant nous, qui continue avec nous et qui se poursuivra après nous. Donc, on n'est pas seul par rapport à cette question, qu'est-ce que je vais croire ou pas croire ? Mais actuellement, dans notre société, comme ce système de croyance n'est plus celui de la majorité, ce qui pose le plus problème sur le plan de la santé mentale, c'est le morcellement individuel des croyances, qui ampute le sens parce que, justement, c'est coupé de cette dimension collective et historique. Alors, quels sont les modèles théoriques et cliniques en psychiatrie qui peuvent nous aider par rapport à cette question des croyances ? Donc, en systémique, comme on l'a vu, les systémiciens ont l'habitude de travailler avec la notion de mythe et de conflit mythique. Et donc, cette idée de conflit mythique, je pense, est quelque chose d'important. Je vous rappelle que lorsque nous sommes confrontés à la parole de quelqu'un qui vient heurter de plein fouet nos convictions profondes, nos croyances, il se produit un blocage relationnel. Intérieurement, on se dit, mais il est fou celui-là, ou qu'est-ce qui lui prend de dire ça, ou pourquoi il croit ça. Il y a quelque chose qui coupe la relation ou qui rend la relation difficile. Alors il faut interroger ce blocage en nous-mêmes, parce qu'il signe le fait qu'une de nos croyances vitales sur le plan identitaire a été touchée. Alors, certaines croyances sont vitales parce qu'elles ont comme fonction de protéger notre psychisme contre l'angoisse. Donc par exemple, si je vous parle d'apparition de la Vierge Marie et que ça vous énerve au plus haut point, que ça vous met en colère, il faut vous demander, tiens, pourquoi est-ce que quelqu'un qui me parle des apparitions de la Vierge Marie et qui y croit, ça me met tellement en colère, ça déclenche un rejet chez moi, etc. Qu'est-ce qui est touché dans mon identité ou mes convictions? Pourquoi ça me met en danger? Si j'ai absolument besoin que tout le monde croit aux apparitions, si je me sens mal dès que quelqu'un les met en doute, qu'est-ce qui se passe, hein? Pourquoi j'ai absolument besoin de cette croyance-là? Donc ça fait partie de ce qu'on appelle le travail sur les conflits mythiques. Gennaro Galdo, qui est un formateur en systémique, avec qui j'avais suivi une session de formation, nous a fait vivre quelque chose, une expérience très intéressante. Il nous présentait une histoire clinique avec un génogramme, vous voyez ce que c'est le génogramme, hein, le transgénérationnel, tout le dessin de la famille, etc. Et puis il nous interrogeait à tour de rôle en disant, voilà, comment vous allez, quelles sont les premières questions que vous allez poser et quelles sont les premières hypothèses, les premières représentations que vous avez de cette famille? Puis après, quand on avait formulé notre hypothèse, nos questions, on dit oui, moi j'ai envie de m'adresser au fils aîné dans cette famille, j'ai envie de. Mon hypothèse, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe d'un lien avec sa mère, etc. Il nous coupait, il nous disait, et toi, dans ta famille, le fils aîné, le lien avec la mère, etc. Et on a tous constaté que les premières hypothèses qui nous venaient à l'esprit et les premières questions qu'on posait étaient en lien avec notre histoire personnelle. Alors, le but dans la formation n'est pas de s'affranchir de son histoire personnelle, mais de prendre conscience de cette histoire personnelle qui fait filtre dans notre capacité à entendre les autres, hein, et qui construit des représentations d'un certain type et ne nous permet pas de créer d'autres représentations. Alors, c'est pour ça qu'on vous a fait vivre, ceux qui ont pris le temps de le faire, le travail en groupe par rapport au film. Hein? Je crois que vous avez tous, ceux qui ont fait cette expérience, été frappés de l'enrichissement au niveau des représentations et de la compréhension du film quand on écoute comment les autres ont compris, comment les autres ont entendu, et on découvre que ce que les autres ont entendu n'est pas du tout la même chose que ce que nous on a entendu. Voilà, ça c'est une expérience qu'on fait dans la formation systémique, quand on lit la Bible ensemble aussi, dans des groupes de lecture biblique. On reçoit, grâce à l'écoute des autres et aux représentations qu'ils construisent, quelque chose qu'on n'aurait pas pu recevoir tout seul. Parce qu'on est rétréci dans nos représentations par notre propre histoire. Les théories ethnopsychiatriques vont chercher à l'influence du mythe culturel et du mythe religieux sur le psychisme des individus. Les représentations du bien et du mal varient suivant les cultures, et ces représentations vont influencer les maladies mentales. Donc, croire par exemple que le mal nous attaque sous forme de démons de l'extérieur et peut nous posséder, qu'on peut nous jeter des sorts, que des gens peuvent pratiquer la magie noire pour nous rendre malades, etc. Cette conception d'un mal extérieur qui peut nous persécuter va favoriser les délires paranoïaques, par exemple, dans une culture. Hein, ça peut aller jusqu'au délire paranoïaque. Par contre, favoriser exclusivement une idée d'un mal qui vient de l'intérieur, de notre propre péché, ça va favoriser la culpabilité et toutes les pathologies de la culpabilité, jusqu'au délire mélancolique éventuellement, ou la névrose obsessionnelle, etc. Bon, ou croire, comme dans les pays plutôt musulmans, que le plus grave, ce n'est pas le mal qu'on a commis, mais le fait qu'il se sache, hein, et qu'il faut... Il faut préserver l'image et qu'il faut cacher le mal, parce que si on le dit, il va s'aggraver. Eh bien, ça va favoriser les clivages, hein, donc les clivages pervers, etc., l'hypocrisie, etc. Donc voilà, c'est important de voir dans les croyances d'une culture, bien sûr, les ressources qu'il y a pour travailler et pour aider les gens, mais aussi qu'est-ce qui, dans ces croyances culturelles, peut provoquer ou aggraver des pathologies. Les théories psychanalytiques. Certains psychanalystes athées pensent qu'il faut, grâce à une psychanalyse, s'affranchir le plus possible des croyances, en tout cas des illusions. Hein, donc il y a une vision très négative de l'illusion qui nous maintient dans une position infantile, etc. Bon. D'autres psychanalystes athées, surtout depuis Winnicott, ont réhabilité l'illusion comme, voilà, avec ce qu'on a déjà vu ensemble, de l'espace transitionnel, de l'objet transitionnel, du jeu symbolique. On réhabilite cette fonction, finalement, du jeu symbolique, qui chez l'adulte est la fonction de la culture, donc du cinéma, du théâtre, etc., comme un espace qui permet de, justement d'enrichir les représentations de la réalité et de, à partir de cet enrichissement de nos représentations, d'agir sur cette réalité. Alors en thérapie, comment est-ce qu'on va passer des croyances symptômes aux croyances ressources? On va partir d'exemples cliniques pour voir comment les croyances peuvent se transformer dans un processus thérapeutique et devenir vraiment des ressources pour le psychisme dans un chemin de confiance. Mais on va voir aussi qu'il y a des conflits mythiques entre les systèmes de croyances religieuses et les systèmes de croyances psy, hein, de croyances scientifiques psy, et que ces conflits mythiques peuvent figer les personnes dans une pathologie et empêcher un véritable processus d'individuation, de subjectivation. Lorsque le système religieux ou le système médical enferme les personnes dans une étiquette, en les maintenant dans une position passive et en agissant de l'extérieur sur elles, il y a un blocage du chemin de subjectivation et de différenciation par rapport aux croyances collectives. Pour aider une personne, il faut toujours la responsabiliser, la mettre en position active dans le processus de guérison, la mettre debout, l'accompagner dans sa compréhension d'elle-même et l'aider à trouver son chemin. Donc les rituels d'exorcisme ou de prière de guérison, s'ils maintiennent la personne en position passive, peuvent parfois enfermer les personnes dans une emprise qui les aggrave. Surtout s'il y a un conflit mythique entre médecin et exorciste ou des conflits à l'intérieur de l'Église. Alors on va prendre un exemple clinique. Saskia souffre d'angoisse psychotique depuis qu'elle a décidé de devenir catholique. Son père est marocain musulman, sa mère est française catholique. Ses parents sont divorcés et Saskia a eu un enfant avec un compagnon qui est catholique. Et elle veut élever son enfant dans la religion catholique et pour ce faire, elle veut se convertir à cette religion. Mais depuis qu'elle a entamé cette démarche, elle a des angoisses et des hallucinations terrifiante. Elle se sent poursuivie et damnée par Allah. Alors, elle va voir un psychiatre aux urgences qui lui dit que tout ça c'est du délire, qui lui donne des neuroleptiques et qui veut l'hospitaliser. Elle signe une décharge, elle arrête ses neuroleptiques et elle demande un rendez-vous à un imam pour lui demander un exorcisme. Alors cet imam, plein de sagesse, va lui dire ceci: mais madame, vous êtes dans le respect de la religion de votre père en voulant élever votre enfant dans la religion de son père. Dans l'islam, c'est le père qui transmet la religion. Et donc, comme vous avez eu un enfant avec un catholique, vous êtes une bonne musulmane si vous devenez catholique. Alors, cet homme, je ne sais pas s'il a une formation systémique, mais il manie le paradoxe d'une façon extraordinaire, parce que, voilà, cette parole va l'aider à sortir de ces conflits de loyauté, de ce clivage où il y avait une impossibilité de réconciliation entre les croyances de son père et de sa mère, et voilà, une identité impossible à vivre. Et donc, elle sort de ces idées noires, de cette espèce de culpabilité mélancolique, Mais le problème, c'est qu'elle rencontre un homme dont elle tombe amoureuse et que cet homme est divorcé. Et que donc, dans la foi catholique, voilà, ça pose problème. Et donc, de nouveau, la culpabilité remonte. Elle a peur d'être dans le péché. Elle recommence des angoisses et des hallucinations. Et là, je ne sais pas comment, elle rencontre un prêtre qui lui donne un livre sur la possession diabolique. Là-dessus, elle se met à avoir des hallucinations qui mettent en scène des formes démoniaques du Moyen-Âge, des succubes, des incubes, etc. Elle va trouver un prêtre exorciste, non mandaté par l'évêque, qui pratique un grand exorcisme en lui demandant le secret. Et le lendemain, je reçois un appel téléphonique de la maman de Saskia qui me demande un rendez-vous urgent parce que sa fille a sombré dans le délire. Elle s'est mise à insulter le Christ avec la voix du démon. Et là, il faudra l'hospitaliser pour la remettre sous neuroleptique avant de pouvoir analyser avec elle qu'est-ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce que c'est le sens de ces hallucinations? Qu'est-ce que c'est cette culpabilité? Pourquoi elle a choisi à un moment donné de croire que ça venait de l'extérieur plutôt que de son désir d'être amoureuse, etc. Voilà, donc il faudra une psychothérapie assez longue pour l'aider à sortir de tout ça. Mais donc on voit que c'est pas simple. Dans notre société, il y a quand même des croyances qui vont pas ensemble et qui n'aident pas toujours les personnes à faire ce travail sur ce qui les habite. Il faut savoir aussi que dans les cultures, dans la culture musulmane et peut-être en Afrique aussi, les choses se disent en images. Il y a un très beau livre de Danielle Pierre, qui est une ethnopsychanalyste, « Comment la souffrance se dit en rêve ». Avant que les choses puissent se dire en paroles, dans certaines cultures, les choses se disent en images. Et donc, il ne faut pas trop vite parler d'hallucination non plus. Alors, un autre exemple un peu différent. Pierre a 35 ans, lorsqu'il vient me consulter, il souffre de dépression, d'insomnie, il a envie de se suicider. Et il a fait déjà une tentative de suicide suite à l'échec de son couple. Il a 3 enfants, il souffre de jalousie et il se reproche beaucoup sa violence vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de sa femme. Il y a cette jalousie et il veut absolument guérir pour trouver une autre femme. Il pense qu'il n'arrivera pas à être père s'il ne trouve pas une autre femme et qu'il restera dans cette violence, etc. Il a eu une relation difficile avec sa mère. Il a une maman assez intrusive et colérique. Et il décrit son père comme quelqu'un de courageux, mais qui était très absent et très démissionnaire. Alors, Pierre est envahi d'émotions insupportables quand il voit un film qui montre des images de tendresse, ou la tendresse entre deux personnes, entre des parents et des enfants, ou dans un couple. En écoutant Pierre, je me demande d'où lui vient cette croyance qu'il doit être sauvé par une femme. Qu'il faut absolument une femme pour qu'il arrive à avoir une bonne relation avec ses enfants. Je lui pose la question et il me raconte que lors de sa tentative de suicide, il a été mort cliniquement et puis réanimé et qu'il est sorti de son corps, qu'il a traversé un long tunnel au bout duquel il a rencontré la Vierge Marie. Et le regard de Marie l'a profondément marqué. Il dit « c'est un regard d'amour » que j'ai jamais rencontré sur la terre, j'ai jamais connu un tel amour. Et puis il rajoute, mais je ne crois pas en Dieu. Je lui dis, ça vous allez m'expliquer, alors comment vous comprenez ce paradoxe? Et donc il rit, il dit, oui, je suis conscient, bon, c'est un intellectuel aussi, je suis tout à fait conscient que ça n'a pas de sens ce que je dis, mais en tout cas j'ai perdu la foi quand j'étais adolescent, et donc j'apprends qu'il a vécu un abus sexuel par un de ses professeurs qui était prêtre, et qu'il a beaucoup humilié, et donc il projette sur Dieu ce qu'il a vécu avec ce professeur, et ça a cassé sa foi. Mais voilà, il a rencontré Marie et son regard d'amour et je lui dis, vous pensez que c'est un rêve? Il dit, non, ça n'a rien à voir avec un rêve, j'ai vraiment vécu ça. Mais alors le problème, qu'est-ce qu'il fait de cette expérience-là? Il ne va pas réinterroger la religion, le matériel religieux collectif, non, il va sur Internet et il veut absolument trouver une femme qui a le même regard que la Vierge Marie. Alors, il rencontre... authentique, dont il rencontre une dizaine de femmes et jamais évidemment ce regard-là. Mais bon, en attendant, il continue sa thérapie et donc on travaille surtout sur sa relation avec ses enfants. Voilà. Alors c'est beaucoup plus tard, par l'écriture sur Internet, hein, avec une femme dont il n'a pas la photo, qu'il va construire une relation par la parole, d'abord pendant 8 mois avant de rencontrer cette femme, et puis il reconstruira un couple avec elle après. Bien, alors, qu'est-ce que ça nous amène au niveau des questions d'un psychiatre par rapport à ce phénomène d'apparition? Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans un livre qui m'a appris beaucoup de choses, voilà, Manuel clinique des expériences extraordinaires, donc ce sont des chercheurs américains et français qui ont travaillé sur des milliers d'expériences extraordinaires, genre near-death experience ou bien des expériences de possession, des expériences de prémonition, de rêve éveillé, de songe, etc. Toutes sortes d'expériences inhabituelles où l'expérienceur, comme ils disent, se trouve plongé malgré lui tout d'un coup dans une expérience que les autres n'ont pas connue, et donc avec qui provoque parfois des angoisses, est-ce que je suis fou, est-ce que je suis dans la réalité, en tout cas dans une réalité qui n'est pas communément partagée. Et ils ont étudié ça en essayant de rester objectif et de ne pas mettre tout de suite une étiquette psychiatrique sur ce genre d'expérience. Alors, les chercheurs recommandent aux thérapeutes de chercher les conflits intérieurs chez les patients qui ont vécu ça, mais aussi en eux-mêmes, les conflits mythiques. À titre d'exemple, un expérienceur a pu décrire les effets bénéfiques intenses ressentis après que sa mère récemment décédée lui est apparue, ainsi qu'à ses enfants, 3 jours après ses funérailles. Donc cette maman assure à son fils et à ses petits-enfants qu'elle ne souffre plus, qu'elle est heureuse et qu'elle a retrouvé sa fille décédée lorsqu'elle était enfant. L'expérienceur témoigne de la paix et de la joie qu'il a ressentie et qui l'ont aidé à traverser le deuil. Dans ce type de cas, de nombreux professionnels soulignent qu'il n'est d'aucun bénéfice à la personne de lui contester, de rejeter, de dévaluer sa version de l'expérience. Pour le thérapeute qui ne croit pas en la vie après la mort, ce genre de témoignage est difficile à entendre sans qu'immédiatement il soit tenté de l'étiqueter comme une illusion collective, une auto-persuasion, voire du délire, etc. Il est important, disent les chercheurs, pour le thérapeute, de ne pas changer l'interprétation que le sujet fait de son expérience. Alors que vraisemblablement, cette tentation chez le thérapeute est motivée par le conflit intérieur qu'il traverse lui-même. C'est pas le désir de la personne qui raconte son expérience. Revenir à ce conflit intérieur et l'analyser et placer au centre de l'entretien le bien-être du sujet, donc de l'expérienceur, est vraiment une position éthique qui sera bien plus utile à tout le monde. Si c'est trop difficile pour le thérapeute, il doit adresser son patient à un autre thérapeute plutôt que d'imposer sa propre vision du monde quant au déroulement de la vie future de cette personne. Donc pour ces chercheurs, l'enjeu de ce genre d'expérience, c'est d'aider les personnes qui l'ont faite à donner du sens à cette expérience et à intégrer cette expérience dans une nouvelle vision du monde, et que ça ne reste pas une espèce de truc qui n'a rien à voir avec leur vie, dont ils ne savent rien faire. Donc c'est un travail qui n'est pas facile. Voilà, alors en conclusion, j'ai insisté beaucoup sur le danger que représente pour moi le morcellement du matériel symbolique religieux et les croyances individuelles construites en miroir des désirs illusions. Néanmoins, si elles ne sont pas source de souffrance, je n'interroge pas les croyances. Elles ont leur fonction à remplir. Seules les croyances qui sont source de maladie ou de pathologie doivent être mobilisées, décollées, etc. avec la personne, avec beaucoup de délicatesse, et puis transformées, enrichies par la personne elle-même, en utilisant si possible le matériel symbolique à sa disposition, dans sa culture, pour construire ou donner du sens à sa vie. Et je termine par ce que vous avez sur votre feuille de route, qui sont les recommandations des auteurs du manuel des expériences extraordinaires, là. Un, écouter sans jugement et sans préconception, donc ne pas imposer ses propres croyances à la personne qu'on écoute. Construire une relation de confiance au sein de laquelle l'expérienceur, comme il l'appelle, peut se sentir en sécurité pour exprimer des émotions intenses, qui sont toujours là quand on a vécu ce genre d'expérience. Reconnaître les possibles conflits intérieurs chez l'expérienceur, mais aussi chez le thérapeute, chez soi-même. Identifier, puis permettre à l'expérienceur de dépasser ses blocages psychiques. S'ouvrir au potentiel d'évolution de la personne, que peut permettre cette expérience. Bon, il y a beaucoup de conversions, par exemple, hein, après une expérience spirituelle un peu extraordinaire. Permettre l'intégration dans la vie quotidienne de la nouvelle vision du monde, de la nouvelle perception de soi qui peuvent découler de cette expérience spirituelle. Offrir la possibilité de rencontrer d'autres personnes qui connaissent ce genre de personnes, de ce genre d'expérience. Et je rajouterai, ce qu'ils ne disent pas, l'importance de rattacher la personne un système collectif à une référence symbolique, culturelle et religieuse.